multi-brigands va commencer. J'ai mis ici les trois prochains séminaires. Donc, tout à l'heure, à 11h, ce sera Philippe Lozière, qui est professeur honoraire au Collège de France actuellement à l'Institut Laue-Langevin à Grenoble, va nous parler de condensation de Bose-Einstein et supraconductivité. La semaine prochaine, ce sera Roger Ballian, du service de physique théorique au CEA, Aziz-sur-Yvette, qui nous parlera d'un modèle simple exhibant la réduction du paquet d'ondes, en liaison donc avec la théorie de la mesure. Le 23 octobre, à 11h, ce sera Christophe Salomon, du laboratoire Castel-Brossel, à l'École normale supérieure à Paris, qui nous parlera de mélange d'isotopes du lithium ultra-froid condensat au milieu d'une mer de Fermi. Et je pense la semaine prochaine être en mesure de vous indiquer les titres des trois prochains séminaires du 30 octobre, du 6 novembre et du 13 novembre. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais commencer réellement le cours de cette année, après les rappels généraux de la semaine dernière. J'ai remis ici quelques formules qui seront importantes pour le cours d'aujourd'hui. Si vous voulez, si dans la fonction d'onde qui décrit les atomes d'un condensat, on sépare le module racine carrée de rho et la phase S, on peut écrire ici sous la forme racine carrée de rho de R et de T et puissance IS de R et de T. Lorsqu'on calcule le courant associé à une telle fonction d'onde macroscopique, on les conduit à associer donc un champ de vitesse à la densité spatiale rho de R et de T, un champ de vitesse qui dépend de la phase, qui dépend du gradient de la phase et qui est donné par l'expression V de R et de T égale H bar sur M, gradient de S de R et de T. Si maintenant, partant de l'équation de Gross-Pitaïevski qui décrit l'évolution de chaque boson dans le champ moyen des autres, on sépare le module et la phase, on obtient deux équations, l'une pour rho, l'autre pour S ou pour V, qui ont la structure d'équations hydrodynamiques. À la limite des grandes densités, des interactions fortes, le condensat gonfle à cause des répulsions si la longueur d'onde est positive, la longueur de diffusion est positive, les variations spatiales sont plus lentes, il est légitime de négliger les gradients spatiaux de la densité. Et on arrive à ce moment-là à l'équivalent pour l'équation de Gross-Pitaïevski dépendant du temps de ce qu'on appelle l'approximation de Thomas Fermi. Et à ce moment-là, on peut simplifier les équations hydrodynamiques pour O et V et leur donner vraiment l'allure d'équations hydrodynamiques classiques, de fluide classique, équations de continuité, équations de l'air. J'ai rappelé ces équations linéarisées, c'est-à-dire que je suppose que le système est à l'équilibre et qu'il est décrit par une densité d'équilibre qui est à la limite de Thomas Fermi et 1 sur G. J'ai la constante de couplage mu, le potentiel chimique moins le potentiel de piégeage. Si le potentiel est parabolique, ça c'est un paraboloïde inversé. La vitesse est nulle à l'équilibre et la phase est une phase globale moins mutée sur H bar. Si on déplace le système très légèrement de l'équilibre, on peut linéariser les équations qui sont non linéaires autour de cet équilibre en faisant rho égale rho 0 plus delta rho, S égale S0 plus delta S, V égale V0 plus delta V, et on obtient donc des équations linéaires pour delta rho et delta V et delta S. J'écris ici l'équation pour delta rho, V sur dt de delta rho plus divergence de rho 0 delta V, où rho 0 est la densité d'équilibre, c'est bien une équation linéaire en delta rho delta V. Et l'équation linéarisée pour delta V, qui est md sur dt de delta V plus g gradient de delta rho égale 0, et l'équation équivalente pour delta S, h bar d sur dt de delta S plus g delta rho égale 0. Alors, si on prend ces deux équations, par exemple, et qu'on élimine delta V entre les deux, on obtient une équation dérivée partielle pour delta rho, qui a la structure d'une équation d'onde, et on peut chercher les solutions normalisables de cette équation d'onde, en utilisant des méthodes tout à fait analogues à celles qu'on utilise pour trouver les équations résoudre l'équation valeur propre de Schrödinger pour un potentiel. Et on trouve à ce moment-là les modes quantifiés de vibration du condensat, qui pour un condensat sphérique ont été établis par Stringari et qui ont une forme très simple. On trouve que chaque mode de vibration d'un condensat sphérique est caractérisé par trois nombres quantiques, NR, un nombre quantique radial, L, le nombre quantique du moment cinétique orbital, et M, la composante du moment cinétique le long de la Z. Et delta rho de NR, LN, ça a la forme d'un polynôme PNL, R de R, qui est un polynôme pair de degré 2NR, que multiplie R à la puissance L, YLM, j'ai oublié de mettre θ et de phi. Et les valeurs propres correspondant à ces modes ne dépendent que des deux premiers nombres quantiques, oméga NR, L, égale oméga 0, la fréquence de, du potentiel sphérique, racine carrée de 2NR carré, plus 2NR L, plus 3NR, plus L. Et j'ai expliqué à la fin du cours de la semaine dernière qu'il y a des modes qui sont particulièrement importants, qui sont les modes NR égale 0, auquel cas ceci se réduit à une constante, puisqu'il n'y a plus de nœuds, c'est un polynôme de degré 0, donc c'est une constante. Donc ça, la fonction delta N, delta rho, simplement RN, YLM, c'est un polynôme harmonique. Et je vous ai montré qu'à ce moment-là, pour ces modes de surface, la divergence de delta V est nulle aussi, et que quand la vibration se fait, chaque élément du condensat vibre en gardant le même volume. Donc la compressibilité du condensat n'intervient pas dans une onde de surface. J'ai montré aussi que la relation de dispersion des ondes de surface, qui est très simple, parce qu'à ce moment-là, ceci s'annule, ceci s'annule, ceci s'annule, oméga de racine de N, a la même forme que la relation de dispersion des ondes de gravité à la surface de l'eau. Par exemple, les vagues à la surface de la mer. D'où le nom onde de surface. Et je rappelle enfin la dernière formule importante, que pour un gaz parfait, sans interaction, oméga NRL pour le théâtre harmonique, c'est simplement oméga 0, 2NR plus L, où NR est aussi le nombre de nœuds de la fonction radiale. Alors aujourd'hui, j'aborde pas encore le problème des rotations, que je commencerai vraiment la semaine prochaine, mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, alors que dans les condensats homogènes, comme l'hélium liquide superfluide, on étudie les propriétés de superfluidité, surtout sur les excitations élémentaires de type phonon, de propagation d'ondes planes. Pour les condensats, qui sont des objets inhomogènes, il est beaucoup plus commode et beaucoup plus dans l'esprit de la physique atomique d'étudier les modes propres de vibration et de faire de la spectroscopie sur ces modes propres, de regarder leur fréquence de manière très précise et de voir comment elle est influencée par une rotation, par l'existence éventuelle d'un vortex, et ainsi de suite. Donc, il m'a semblé indispensable de consacrer une séance à l'étude des modes propres de vibration d'un condenseur, à l'étude de leur structure, de la manière de les exciter et de leur calcul par une technique qui se révèle extrêmement puissante dans ce domaine de recherche qu'on appelle la technique des règles de somme. Donc c'est ce que je vais aborder maintenant. Fonction FX. Bon, donc je vais commencer, si vous voulez bien, je vais commencer par étudier donc la structure des modes de vibration, voir à quoi ils ressemblent, comment la vibration se fait, puis j'étudierai la manière dont on peut les exciter par une modification du potentiel de piégeage. C'est important parce que ce sera l'opérateur de perturbation dont il faudra calculer les éléments de matrice pour calculer la force, l'intensité des diverses oreilles qu'on observe. J'introduirai ensuite la densité spectrale, qui est la réponse du condensat en fonction de la fréquence du mode de la perturbation qui les excite. Puis à partir de la densité spectrale, les moments mk de s oméga. Et je vous montrerai à ce moment-là qu'on peut mettre les moments sous forme de commutateurs, sans aucune approximation, de l'hamiltonien total. Et qu'on peut calculer exactement ces commutateurs et obtenir pour les moments d'ordre le plus bas des expressions exactes, qui ne reposent sur aucune approximation. Et je vous montrerai ensuite comment, connaissant ces moments, connaissant des formes exactes pour les moments, on peut en déduire, moyennant cette fois-ci certaines approximations, des valeurs approchées des fréquences de vibration, surtout valeurs qui ont l'intérêt d'être valables aussi bien pour des interactions faibles que pour des interactions fortes. En particulier, elles permettent de comprendre comment on passe du régime des interactions faibles au régime des interactions fortes. Donc, j'ai commencé, si vous voulez bien, par étudier la structure. D'abord, le mode NR égale 1, L égale 0. Alors, c'est un mode, donc il y a la symétrie sphérique, et c'est un mode où le condensat se contracte en restant une sphère et respire en restant une sphère. Donc, on l'appelle un mode de compression ou de respiration, ou un monopôle. Alors, sa fréquence, d'après cette formule, qui est ici, si je fais NR égale 1 et 2 plus L égale 0, ça s'en va, 2 fois 2, 2 plus... Alors. Oui, 2 plus 3, 5, excusez-moi, 2 plus 3, 5, ça fait racine de 5 oméga 0. Alors, je m'excuse ici sur les notes, c'est une petite erreur, c'est pas oméga de 0, 1, c'est oméga de 1, 0. Le premier nombre ici, c'est NR, le deuxième, c'est L. Alors, P1, 0, à ce moment-là, c'est un polynôme paire de degré 2, 2 NR, donc c'est AR2 moins B, il y a un nœud radial. Et si j'utilise cette expression, ici, en prenant pour d sur dt i oméga 0, hein, le racine de 5, je m'aperçois que delta s est proportionnel à delta rho, donc à p1 0, puisque delta rho est p1 0. Par conséquent, v c'est gradient de delta s, et divergence de v c'est laplacienne de delta s, et le laplacienne de cette quantité, c'est 6a, c'est pas nul. Autrement dit, un mode de compression, c'est pas un mode dont le champ de vitesse a une divergence nulle. Hein, c'est pas comme les ondes de surface. Et en particulier, ça dépend explicitement du coefficient de compressibilité, bien sûr, puisque c'est un mode de compression. Voilà un premier mode. Donc, NR égale 1, L égale 0. Alors, je passe au suivant. NR égale 0, L égale 1. Ça, c'est un mode dipolaire. Ça revient à ajouter, donc, R, Y, 1, θ, c'est-à-dire R cosinus θ, R sinus θ, ça revient à ajouter, donc faire une translation globale du condensat, donc c'est une vibration du centre de masse. Et la fréquence est oméga 0, 1, c'est oméga 0. Mode suivant, alors ça c'est des modes assez importants, c'est les modes NR égale 0. Donc ça c'est le monopôle. NR égale 0, L égale 2, ça c'est une onde de surface, NR égale 0, L égale 2 c'est quoi de pôle. Mais maintenant il y a plusieurs valeurs de M possibles. Alors pour M égale 0, c'est une perturbation, une vibration 3Z2 moins R2. Imaginez donc la sphère que vous avez là, vous la comprimez de manière isotrope dans le plan horizontal et vous l'étendez dans le plan Z, donc ça devient un cigare qui a la symétrie de révolution, et puis le coup d'après, ça s'écrase le long de l'axe Z, ça s'étend le long de l'axe XY en restant homogène, ça a la forme d'une crête. Donc c'est une vibration quadripolaire qui respecte la symétrie de révolution autour de l'axe Z. Et la fréquence, c'est oméga 0,02, qu'on prend cette formule, qu'on fait N égale 0, il reste plus que le L, et c'est oméga racine de L, c'est oméga racine de 2. Oméga 0 racine de 2. Et là, c'est oméga 0 racine de 5. Alors, il n'y a pas seulement ce mode-là, il y a le mode en x2 moins y2, c'est maintenant le mode m égale plus ou moins 2. Ça revient donc à ajouter à la forme du condensat une perturbation en x2 moins y2. Alors, ça revient à prendre la section par un plan horizontal du condensat, à écraser le long de y et à élargir le long de x, et une demi-période après l'inverse. Autrement dit, Z n'est pas changé, et le condensat, donc, a une déformation quadripolaire dans le plan perpendiculaire à l'axe Z. C'est ce que j'ai dessiné ici. Ça, c'est un mode qui est très souvent utilisé dans les expériences sur les condensats bosoniens. Le suivant, on peut maintenant non pas prendre M égale plus 2 et moins 2, une superposition de M égale plus 2 et moins 2, mais on peut prendre plus 2 seulement. Si on prend plus 2 seulement, ça revient donc à ajouter une perturbation qui est R2 Y2 y de 2 de θ f. On prend la partie réelle, donc ça veut dire, on prend la partie réelle de r2 y2 de θ phi et puissance moitié oméga t, c'est donc r perpendiculaire carré, parce que ça c'est sinus carré, cosinus de phi moins oméga t. Alors qu'est-ce que c'est que r perpendiculaire cosinus de phi moins oméga t? C'est une perturbation, une déformation elliptique. Vous voyez qu'il y a un axe défini par l'axe phi ici, et comme 2 phi moins oméga t, ça tourne à la fréquence oméga t sur 2, donc on a une déformation elliptique qui tourne à la fréquence oméga sur 2. Et comme oméga est égal à oméga 0 racine de 2, oméga 0 racine de 2 sur 2, ça fait oméga 0 sur racine de 2. Donc, le mode de L égale 2, M égale 2, c'est donc une déformation elliptique qui tourne à la fréquence oméga 0 sur racine de 2, où oméga 0 est la fréquence non perturbée de l'oscillateur. Alors nous verrons plus tard que ce mode est extrêmement important, parce que vous voyez que si on introduit dans un condensat une perturbation qui rompt la symétrie de révolution par rapport à la Z, et si on fait tourner cette perturbation, quand on approche d'oméga 0 sur racine de 2, on peut exciter de manière résonante ce mode, et nous verrons que ceci a par exemple une grande importance pour la génération de tourbillons. Réalisez aussi que le mode en x2 moins y2, c'est une superposition linéaire des modes l égale 2, m égale plus 2 et des modes l égale 2, m égale moins 2. Effectivement, si vous prenez deux déformations elliptiques qui tournent à oméga sur 2, et si vous les composez, vous allez retrouver la déformation précédente, c'est-à-dire une déformation quadripolaire d'axe x, y, qui elle oscille à la fréquence double. Hein, parce que quand l'ellipse a fait un demi-tour, elle retombe sur ses pieds. Donc on retombe la même déformation. M égale plus ou moins 1, nous étudierons également ces déformations. Si j'ai un condensat sphérique, je suppose un condensat sphérique, le mode plus L égale 2, M égale plus ou moins 1, qui a toujours la fréquence oméga 0 racine de 2, ça correspond à une déformation quadripolaire, c'est un mode en XZ, et non pas en X2 moins Y2, c'est un mode en XZ, qui est une déformation quadripolaire, dont les axes de symétrie sont à 45 degrés de OX et OZ, et alors que Y ne change pas. Ça, c'est si le condensat est sphérique. Si le condensat est très allongé, nous verrons que si on ajoute une perturbation en XZ, ça revient à prendre le condensat qui a la forme d'un cigare et à le tourner légèrement par rapport à l'axe Z. Et à ce moment-là, on va exciter un mode où le condensat allongé fait des petites oscillations autour de l'axe Z. C'est ce qu'on appelle les modes ciseaux, qui ont été très importants pour mettre en évidence le fait que le moment d'inertie d'un condensat est beaucoup plus petit que le moment d'inertie rigide. Donc ça aussi, c'est un mode qui est important pour la suite. Quand le condensat est elliptique, c'est le mode ciseau. Pardon. Bon, j'ai ici étudié les modes de vibration d'un condensat sphérique, dont on connaît vraiment en détail la structure. On sait dire aussi des choses sur les modes de vibration d'un condensat qui n'est pas sphérique, et d'un condensat, par exemple, qui a une symétrie de révolution autour de la Zn, et qui est non sphérique, donc qui est décrit, qui est contenu dans un potentiel qui a deux fréquences propres, une fréquence au long de la Z, la fréquence axiale, et une fréquence perpendiculaire, oméga perpendiculaire, qui est la fréquence radiale. Si oméga perpendiculaire est très grand devant oméga Z, on a un condensat en forme de cigare. Si oméga perpendiculaire est très petit devant oméga Z, on a un condensat en forme de crêpe. Alors, évidemment, dans ce cas-là, M reste un bon nombre quantique, mais on a toujours la variance par rotation autour de l'axe Z, mais N n'est plus un bon nombre quantique. Néanmoins, on peut démontrer, ça s'est fait, je crois, dans le cours de 98-99, que m égale plus delta rho égale r au carré ylm de θ phi reste une solution de l'équation de Newton dynamique pour m égale, je m'excuse, c'est pour l égale plus ou moins 2, pour l égale 2, pardon, ça je prends les modes l égale 2, hein. Pour l égale 2, m égale plus, il manque l égale 2, pour l égale 2, m égale plus ou moins 2, et m égale plus ou moins 1. Et pour m égale plus ou moins 2, on trouve cette relation dispersion, oméga perpendiculaire racine de 2, et que pour L égale 2, M égale plus ou moins 1, oméga racine carrée de oméga perpendiculaire carré plus oméga Z perpendiculaire carré. Donc, rajoutez ici L égale 2. Hein. Par contre, si on prend M égale 0, R2 Y2 0 n'est pas une solution. La solution, il faut superposer linéairement une fonction y2, r2, y2, 0 et r2, y0, 0, et on obtient un mode qu'on appelle le mode monopole quadrupole, il y a deux monopoles quadrupoles, et l'équation du second degré que j'avais abordée donc, dans le cours 98-99 avec ces deux valeurs propres. L'une correspond à quelque chose qui rappelle le mode de compression. Le sigma bouge en se contractant dans les trois directions et en respirant dans les trois directions. Et il y a un mode de type quadrupolaire, ici, où il se contracte le long de l'axe Z, il s'étend le long de XY, ou inversement, il se contracte le long de XY et s'étend le long de l'axe Z. Et on a des formules analytiques pour ces deux modes de vibration. Voilà des rappels donc très brefs sur la structure. Maintenant, comment peut-on les exciter? Bien, on ajoute au potentiel de piégeage un potentiel dépendant du temps, oscillant, qui a la symétrie adéquate pour exciter ces modes donnés. Donc, voilà. Comment on excite le mode de compression? Bien, c'est très simple. On augmente la raideur du piège uniformément sur X, sur Y et sur Z. Donc on ajoute une perturbation delta V égale epsilon partie réelle de Rd puissance moins j oméga t. Donc on ajoute une perturbation F et puissance moins j oméga t plus F3 et puissance moins j oméga t avec F égale sigma i de 1 à n de Ri carré. Alors, ça revient à ajouter au potentiel de piégeage 1 demi de m oméga 02 R2, une quantité epsilon R2, ici. Et ça revient donc à changer légèrement la fréquence d'oscillation du piège et de la remplacer par oméga plus delta oméga au carré. Quand on égale ces deux expressions, on voit que m oméga 0 delta oméga, c'est epsilon. Donc epsilon, c'est m oméga 0 delta oméga. Comment peut-on exciter maintenant un mode x2 moins y2? Je vous rappelle que le mode x2 moins y2, on contracte sur x, on dilate sur y ou inversement. Donc, on augmente la fréquence le long de x. Au début, il est isotrope. Hein. On augmente le long de x, on diminue le long de y, donc on remplace le potentiel par ça. On obtient donc 1 demi de m oméga perpendiculaire x2 plus y2, potentiel initial, plus à l'angle plus bas, m oméga perpendiculaire delta oméga x2 moins y2. Donc, on ajoute une perturbation epsilon, un nouvel opérateur F, qui est maintenant sigma i de xi carré moins yi carré, avec epsilon donné par une formule équivalente, m oméga perpendiculaire delta oméga. Comment on excite le mode n égale 0, l égale 2, m égale plus 2, pour cela, on introduit une perturbation elliptique dans le plan XY. Par exemple, dans certaines expériences qui sont faites à l'école en maths, on introduit un faisceau laser désaccordé qu'on bouge très rapidement dans une direction perpendiculaire au plan XY. Donc on introduit une anisotropie dans le plan XY, et puis ça très rapidement, et puis on tourne lentement cette perturbation. Donc on crée une perturbation elliptique, on tourne à la fréquence oméga. Donc à ce moment-là, l'opérateur F qu'on ajoute, c'est R2, Y2, 2, et y de 2, c'est x plus y, y. Donc la perturbation qu'on ajoute, c'est f égale sigma i de xi plus i, yi au carré. Bon, donc vous voyez que dans tous les cas, ça revient à ajouter à la Hamiltonienne une petite perturbation epsilon quelque chose, où le quelque chose est un opérateur qui dépend des coordonnées des particules, et qui est soit ri carré, soit xi moins i carré carré, soit xi plus i carré au carré, suivant la nature du mode qu'on veut exciter. Donc on ajoute une perturbation adaptée à la symétrie du mode qu'on veut exciter. C'était la raison pour laquelle il était important d'avoir bien en tête les symétries des perturbations. Alors j'arrive maintenant à une notion suivante, qui est la densité spectrale. Alors, on suppose qu'on va bouger on balaye la fréquence de la perturbation qu'on ajoute et on regarde l'intensité de la réponse du système. Et on va porter le carré de la réponse en fonction de la fréquence d'excitation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale. Et si on calcule cette densité spectrale par la règle d'ordre de Fermi, alors le plus bas, qui est le carré de la perturbation, on trouve quoi? On va trouver une fonction delta, une réponse delta, centrée à la fréquence En moins E0, où E0 est l'énergie de l'état fondamental du condensat, En l'énergie de l'état excité, Cn, et avec un poids qui est quoi? Il est proportionnel au carré du module de l'opérateur F qui excite cette réponse. D'accord? Donc la réponse spectrale, la densité spectrale, S d'oméga, donc c'est une somme de fonction delta, delta de oméga moins oméga N0, que multiplie F, opérateur F, entre psi 0 et psi n, un module au carré. Donc il est tout à fait logique d'introduire cette densité spectrale. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait l'an dernier, non pas pour un condensat inhomogène, mais pour un condensat homogène. Et à ce moment-là, ce qui jouait le rôle de F, c'était la transformée Fourier de l'opérateur densité, parce que la perturbation qu'on appliquait au condensat homogène, c'était une perturbation proportionnelle à la densité spatiale du condensat. Et vous voyez qu'ici, je suppose ici que psi 0 est l'état exact fondamental, et psi n, c'est la fonction d'onde exacte qui décrit le condensat et avec une excitation élémentaire. Et la notion suivante qu'on a introduite à partir de n, c'est les moments de la densité spectrale, mk, moments qui sont définis par l'intégrale. Alors, oméga est positif ici, puisque je parle de l'état fondamental, donc tous les oméga n0 sont positifs, donc somme de 0 à l'infini, de S de oméga, oméga à la puissance k de oméga. Donc, je remplace dans l'expression de la densité spectrale, donc je vais trouver sigma n de oméga n0 à la puissance k, puisque j'ai un delta de oméga moins d'oméga n0, donc ça me donne un oméga à la puissance, oméga n0 puissance k, fn, psi 0 au carré, et comme oméga n, si tout commence avec les énergies, oméga n, oméga 0, c'est en moins 0 sur h bar, il va y avoir 1 sur h bar k, somme sur k de en moins e0 à la puissance k, psi n, psi f, psi 0 au carré. Donc c'est des définitions analogues à celles du cours de l'an dernier, à part, comme je vous l'ai dit ici, qu'au lieu de f l'an dernier, j'avais la transformée Fourier en rho de k de la densité spatiale, si rho de r égale sigma i de delta de r moins r. Alors ce qui est remarquable, c'est que je vais vous montrer maintenant que ces expressions de mk peuvent être mises sous la forme de commutateurs, de valeurs moyennes de commutateurs dans l'état fondamental exact, et sans aucune approximation. Donc, autre expression équivalente des mk. Et pour y arriver, on va simplement utiliser un certain nombre de fois la relation de fermeture sur le spectre de l'hamiltonien H. Alors, effectivement, qu'est-ce que vaut, par exemple, M0? M0, ça vaut tout simplement somme de 0 à l'infini de S d'oméga de oméga, c'est donc sigma n de psi n f psi 0, psi n f psi 0, psi 0 f psi n, je remplace le module au carré par le produit des deux complexes conjugués, et je vais apparaître au milieu sigma n de psi n psi n. Donc, ceci, c'est tout simplement la valeur moyenne en psi 0 de F3S. M1. M1, alors maintenant, il faut ajouter ici, non pas oméga, somme de oméga, S d'oméga, d'oméga. Je vais vous montrer que M1, c'est donné par cette formule, 1 sur 2 f bar, la valeur moyenne dans l'état F0, du commutateur de F3 avec le commutateur de H et de S. Alors, je vais faire uniquement ce calcul, les autres, vous demanderez de faire confiance ou de les refaire. Alors, faisons ce calcul en détail. Alors, le commutateur de F3 avec HF, c'est le commutateur de F3 avec HF moins FH. J'ai donc 4 termes, 2 termes où H est en sandwich entre 2F, et 2 termes où FH est soit à droite, soit à gauche. Alors, on injecte la relation de fermeture somme sur N, y compris 0, de psi n, psi n égale 1, ici, par exemple, ou ici. Alors, ici. Je vais avoir psi 0 F3 HF, si je mets la relation de fermeture ici, je vais faire apparaître psi 0 F psi n, H agissant sur psi n, c'est En psi n, et je vais avoir psi n F psi 0, j'obtiens donc sigma n de En, élément de matrice de F entre psi 0 et psi n au carré. Idem pour ce terme, à part que maintenant, je vais avoir l'élément de matrice de F3 entre psi 0 et psi n, donc ça ressemble beaucoup à part que F est ici remplacé par F3. Si maintenant je prends ces deux termes, quand je vais agir quand je prends l'élément de matrice de cet opérateur entre psi 0, ceci va me donner un E0, et je vais me trouver avec F3, F, S fois F, en remettant la relation de fermeture ici, je vais avoir E0 somme sur N de psi N F psi 0 au carré. Et idem, enfin, pour ce terme, j'aurai E0 psi N F3 psi 0 au carré. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que l'élément de matrice de F entre psi N et psi 0 au carré est égal à l'élément de matrice de F3 entre psi N et psi 0 au carré. Alors, pour ça, il faut utiliser les symétries du problème. C'est ce que je fais transparent suivant. J'utilise les symétries. Alors, j'ai ajouté par rapport aux notes que j'utilise une réflexion d'espace qui est la réflexion par rapport à un plan vertical. L'hamiltonien est invariant par réflexion par rapport à un plan vertical, en particulier s'il a une symétrie cylindrique. S'il n'est pas symétrie cylindrique, il a toujours deux axes de symétrie. Enfin, comme l'hamiltonien a une symétrie de ce type, je peux toujours choisir les états propres de H de parité bien définie, c'est-à-dire qu'il se transforme par cette opération de réflexion par rapport à un plan, avec un signe plus ou avec un signe moins. Je peux toujours les choisir de cette manière. De même, si vous prenez maintenant la harmonique sphérique YLM, puisque tous les opérateurs que j'ai utilisés sont d'accord R2 YLM, Y2M, si je prends un tel opérateur, je fais la réflexion par rapport à un plan, M va se changer en moins M, parce que ce qui tourne comme ça, se met à tourner comme ça. Et à ce moment-là, on trouve que pi F pi 3 aussi se transforme en F3 avec un signe plus ou moins. Donc si je prends Fn, Pn, F, Psi 0, et je mets pi 3 pi qui est égal à 1, puisque pi est un opérateur unitaire, je vais avoir un signe plus ou moins ici, un signe plus ou moins ici, et dans pi F, pi 3, un signe plus ou moins, donc je vais avoir ici un signe plus ou un signe moins, Fn, Pn, F3, Psi 0. Le signe moins étant, si j'ai un nombre impair de signe moins. Et quand j'élève au carré, les signes moins sont bons, et j'obtiens donc psi n f psi 0 au carré égale psi n f3 psi 0 au carré. Donc quand je reviens en arrière, dans toutes ces formules, toutes ces coefficients sont les mêmes, mais ces deux s'ajoutent, et comme il y a le signe moins ici, je retrouve exactement En moins E0 que multiplie deux fois En somme sur N de En moins E0 psi N F psi 0 au carré. C'est-à-dire, je trouve que la valeur moyenne de ce double commutateur non psi 0, c'est donné par cette expression qui n'est autre, par définition de M1, que de H bar M1. Donc, j'ai démontré cette formule pour M1. Je vous fais grâce des calculs pour M3. Ils sont plus longs. Je les ai fait en détail pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. On trouve cette valeur pour M3. Alors, pour M3, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. C'est le commutateur d'un commutateur avec un double commutateur. Donc, il y a beaucoup plus de termes. Alors, rassurez-vous, je ne refais pas les calculs. D'abord, je refais juste un seul calcul parce qu'il m'a donné beaucoup de mal. Et bon, ça peut être utile. Donc, je le fais rapidement pour vous, si vous voulez vous amuser à le refaire. Et on tombe, le seul nouveau type de calcul qu'on trouve. Attends, je suis allé trop vite. C'est pas là. Bon, ici, il n'y a aucun problème, ça c'est des calculs commutateurs. C'est un peu plus loin, c'est qu'on peut calculer les commutateurs que le calcul du commutateur. Le calcul de ce triple commutateur est un peu plus compliqué. Donc, je vous fais grâce des calculs de ceci. Je passe tout de suite maintenant à M-1. Donc, j'ai calculé en détail M1, je vous ai donné l'expression de M3, et je vais parler maintenant M-1. M-1 est intéressant, et j'en aurai besoin tout à l'heure, donc je discute un peu en détail. Qu'est-ce que c'est qu'M-1 ? Donc, c'est 1 sur H bar M-1, c'est-à-dire H bar au numérateur, 1 sur En moins E0, somme sur N, donc H bar, somme sur N de 0, somme sur N différente de 0, l'élément de matrice au carré divisé par En moins E0. Alors là, utiliser des commutateurs avec l'hamiltonien, c'est difficile de faire apparaître quelque chose au dénominateur, mais alors là, on revient à une autre idée, un calcul de perturbation. Et on se pose la question de la susceptibilité statique qui-statique. Supposez que F est égal à F3, supposez que F soit hermétique, et supposez qu'on ajoute à l'hamiltonien H une perturbation lambda F, F étant hermétique. Cette perturbation va polariser l'état fondamental du condenseur, qui va être perturbé, et au premier ordre, Eh bien, la moyenne de l'aide dans l'état fondamental va être modifiée. Comme par exemple un atome qui est rond, qu'on le met dans un champ électrique, qu'on polarise la fonction d'onde de l'état fondamental, on fait apparaître un dipôle électrique, et on a un dipôle électrique proportionnel à la perturbation, c'est-à-dire au champ électrique qu'on a appliqué, on fait apparaître une susceptibilité électrique. Et ça, on peut le définir de manière générale pour un système quelconque. Et la variation de la valeur moyenne de F, ici il faudrait mettre une valeur moyenne, hein, c'est proportionnel à lambda, puisque l'on a calculé le premier ordre, et le coefficient, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité statique. Alors, quelle est l'expression de la susceptibilité statique? Ça, c'est donné par la théorie des perturbations. Au premier ordre, en lambda, si j'ajoute la perturbation lambda f, psi 0 devient psi 0 tilde, psi 0 plus lambda somme sur n de psi n, l'élément de matrice de f entre psi 0 et psi n, divisé par E0 moins EN. L'énergie d'état initial moins l'énergie d'état final. Vous voyez, on a contaminé l'état psi 0 par tous les autres états avec des coefficients de contamination qui sont des éléments de matrice divisés par des dénominateurs d'énergie. Alors, après, on calcule la valeur moyenne de F dans psi 0 tilde, on enlève la valeur moyenne de F dans psi 0 non perturbé, et on voit le delta F. Et si on se contente des termes d'ordre linéaire en lambda, on trouve que delta F, c'est 2 fois lambda, somme sur N, différent de 0, de psi 0 F psi n au carré, divisé par N 0 moins N, et on voit apparaître cette formule, une somme d'un élément de matrice au carré, divisé par on voit apparaître le moment N-1. Et en comparant à l'expression de N-1, on voit donc que psi statique c'est donné par cette formule, coefficient de lambda, et en comparant avec l'expression de N-1, on trouve cette relation très intéressante, que N-1 c'est moins H bar sur 2, pourquoi moins? Parce que ici c'est E0 moins EN, dans le calcul de perturbation, alors que dans la définition du moment, c'est EN moins E0, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins, et le H bar c'est parce que j'ai utilisé des fréquences et non pas des énergies, et j'obtiens donc cette formule intéressante, que le moment d'ordre moins 1, c'est moins H bar sur 2, psi statique. Bon, alors maintenant que j'ai obtenu des expressions équivalentes, et que ces expressions apparaissent sous forme de commutateurs, je vais vous montrer qu'on peut calculer explicitement ces commutateurs. Et ce que je vais maintenant, c'est de faire le calcul explicite de ces commutateurs. Alors, je ne vais pas calculer ça pour toutes les valeurs de cas, je vais calculer pour les modes les plus bas, qui sont ceux qu'on utilise dans les expériences. Et la raison pour laquelle on peut les calculer est simple à comprendre. Tous les opérateurs que j'ai ajoutés, tous les opérateurs qui perturbent le condensat, vous voyez, ce sont des opérateurs spatiaux. C'est R2, c'est X2 moins Y2, c'est X plus Y au carré, parce qu'on modifie le potentiel de piégeage. Or, dans l'Hamiltonien du système, la seule chose qui ne commute pas avec X ou Y, c'est P. Et c'est l'énergie cinétique, qui est très simple. On peut garder les interactions, elles ne dépendent que des positions, donc elles commutent avec la perturbation, donc on n'aura à calculer le commutateur de S qu'avec P, et ça on sait calculer facilement, à partir de relations de commutation canonique, et on va pouvoir calculer exactement ces commutateurs, et obtenir donc des expressions exactes, exprimant les moments, sous forme de valeurs moyennes dans l'état fondamental, de quantités physiques, bien définies. J'ai montré ça pour M1. Donc j'ai calculé, je vais me limiter pour simplifier un condensat sphérique. Les calculs peuvent être faits dans un cas plus général. Et j'ai calculé M1 pour un condensat sphérique. Alors là, je fais le calcul un peu. Je vous donne un peu tous les intermédiaires du calcul. Donc, S, c'est sigma i de Ri carré. Et H, quant à approximation, c'est somme sur i de 1n de pi carré sur 2n plus 1/2 de m oméga 0 carré Ri carré plus 1/2. Somme sur i, somme sur j différent de i, j delta de ri moins h. Alors, le seul terme de h qui ne commute pas avec f, c'est ce terme-là, donc il faut que je calcule hf, pi carré sur 2m, avec ri carré. C'est donc sigma i, pi carré sur 2m, avec xi carré, plus le même terme où x est remplacé par y, et x remplacé par z. Le commutateur de bx carré avec x2, c'est pi carré x, x plus x, pi carré x. Ces deux termes se calculent immédiatement avec la formule que x commutateur est une fonction de px et ih bar de cette fonction sur dpx, et ainsi de suite. Et j'obtiens donc ces deux choses-là, c'est moins 2 ih bar x px plus pxx. De sorte que le commutateur de h avec s, c'est moins 2 ih bar sur m, somme sur i de xi pxi plus yi pxi plus zi pzi, moins 3 ih bar. Alors, c'est pas fini, il faut calculer le commutateur de ça avec F3, puisque dans M1, c'est le commutateur de F3 avec FF. C'est ce qu'on fait dans le transparent suivant. Le commutateur de F3 avec FF, c'est donc le commutateur de F3, c'est XI carré plus XI carré plus AI carré, avec ce que je viens de calculer, le troisième bar s'en va, parce que c'est une constante qui commute avec ça. Donc, j'ai à calculer ce commutateur-là. Et donc, en particulier, j'ai utilisé le commutateur de XI carré avec XI PXI, qui est égal à 2IH bar X2. Et finalement, ce double commutateur, c'est tout simplement 4H bar 2 sur N, somme sur I de 1 à N, de XI carré plus YI carré plus ZI carré. C'est donc 4H bar 2 sur M, sigma I de 1 à N de RI carré. Et j'obtiens donc M1, qui est 1 sur 2IH bar, ce double commutateur, valeur moyenne dans 6,0. C'est 2H bar sur M, 4H bar 2 divisé par 2H bar, 2H bar sur M, la valeur moyenne dans psi0 de sigma i de ri carré, et si ça apparaît, si je multiplie par 1/2 de m oméga 0 2 en haut et en bas, je vois apparaître 4h bar sur m2 oméga 0 2, la valeur moyenne dans psi0 de sigma i de 1 à n de 1/2 de m oméga 0 carré à ri carré, ça c'est le potentiel, l'énergie potentielle, et j'obtiens donc une formule exacte, sans aucune approximation, que m1, c'est 4h bar, sur M2 oméga 02, la valeur moyenne de l'énergie potentielle dans l'état fondamental du condensat. Et ça, c'est une relation exacte. Aucune approximation n'a été faite sur la force ou la faiblesse des interactions. Alors, le même calcul peut être fait pour M3. Alors, je ne le fais pas. C'est là que je me suis embrouillé un peu tout à l'heure. Je ne fais pas ce calcul, c'est un peu long et pénible, parce qu'il y a trois coups. Je ne vous parle ici que d'une partie intermédiaire du calcul qui personnellement m'a un peu embêté pendant un certain temps, et parce qu'il y a fait intervenir les fonctions delta, mais je vous fais donc un transparent pour ça, un ou deux transparents pour ça. Le seul terme nouveau, à part les commutateurs de X2 avec XPX ou les commutateurs de P2 avec XPX qui ne posent aucun problème, le seul terme nouveau qu'on voit apparaître à cause de l'énergie d'interaction, c'est le commutateur de XPX, XIPXI avec delta de RI moins RG, qui apparaît dans la méthode d'interaction. Alors ça, delta de RI moins RJ, c'est delta de XI moins XJ, delta de YI moins YJ, delta de DI moins YJ, qui commute avec XI PXI. Donc ce commutateur, c'est tout simplement le commutateur de XI PXI avec delta XI moins YJ qui multiplie ces deux fonctions delta. Et ce commutateur, là, celui-là, c'est XI PXI delta de XI moins YJ moins delta de XI moins YJ, XI, et le PXI, et qui multiplie PXI. J'ai mis ça de l'autre côté. Hein. C'est moins j'ai. Alors, je fais passer PXI à droite ici. À ce moment-là, il s'en va. Et le commutateur de PX avec une fonction de X, c'est moins j'ai bar dérivé de cette fonction par rapport à XI. Donc, cette quantité-là, c'est moins j'ai bar XI, D sur DXJ, D sur DXI de delta de XI moins XJ. Alors, groupons les termes I et J, et j'obtiens donc XI, PXI, plus XJ PXJ commutateur avec delta de XI moins XJ, c'est moins JS bar, XI D sur DXI plus XJ D sur DXJ de delta de XI moins XJ. Or, D sur DXJ de delta de XI moins XJ, c'est moins D sur DXI de delta de XI moins XJ. De sorte que ces deux termes, je peux mettre d sur dxi en facteur et j'obtiens xi moins xj d sur dxi de delta de xi moins xj. Et d sur dxi de delta de xi moins xj, c'est aussi d sur dxi moins xj de delta de xi moins xj. Donc, regrouper les deux termes, ça me donne xi moins xj, d sur d de xi moins xj delta de xi moins xj. Et il y a une quantité bien connue pour les distributions, c'est que x delta prime est égal à moins delta. Ça, vous le vérifiez en faisant agir ça sur une fonction quelconque. Et on faisait une intégration par partie. Donc ça, c'est une identité en distribution. Donc finalement, tout ça, ça revient à moins delta de xi moins yj. Quand je le regroupe avec les delta de yi moins yj, delta de zi moins yj qui était spectateur dans ce problème, je ferai apparaître la fonction delta de ri moins rj. Et j'obtiens finalement cette formule simple, que xi bxi plus xi bxi avec commutateur avec delta, ça me donne tout simplement i bar fois la fonction delta. Et quand on reporte ça dans les équations, on fait apparaître l'énergie d'interaction. Donc tous les calculs de commutateurs, à part ce petit calcul nouveau, sont les mêmes que tout à l'heure. Et le résultat qu'on trouve, c'est que la valeur moyenne dans l'état du condensat de ce triple commutateur, ou de ce commutateur entre un commutateur et un commutateur double, est égale à 4 fois l'énergie cinétique moyenne, plus 4 fois l'énergie potentielle moyenne, plus 9 fois l'énergie d'interaction moyenne. L'interaction vient des delta de RI moins RJ qui apparaît dans ce calcul. Or, j'ai démontré dans le cours 98-99 que la dépendance en dimension des différents termes de la Hamiltonien qui apparaît dans Gauss-Kutaevsky, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie d'interaction permet d'obtenir le théorème du Viriel, qui est que 2 fois l'énergie cinétique moins 2 fois l'énergie potentielle plus 3 fois l'énergie d'interaction égale 0. Je vous renvoie donc à cette page du cours 98-99. En combinant ces deux relations, je peux éliminer et interaction, et j'obtiens encore de nouveau une relation exacte pour M3, et M3 égale 4 alpha sur M2 que multiplie 5 fois l'énergie potentielle moins l'énergie cinétique. Alors, là encore, il s'agit d'une relation exacte. Là encore, avant d'aller plus loin, je peux regarder un peu cette formule et puis me dire quelle est la forme qu'elle prend dans les cas limites d'une interaction faible et d'une interaction forte. Si je prends une interaction faible, si je prends un gaz parfait, je sais que pour un gaz parfait, l'équipartition de l'énergie me dit que l'énergie cinétique moyenne est égale à l'énergie potentielle moyenne. Donc dans cette formule, E cinétique est égale à F potentiel, quand j'enlève, je trouve que M3 est égal à 4 fois l'énergie potentielle, le crochet, 4 multiplie 4, ça fait 16, 16 S bar sur M2, énergie potentielle moyenne. D'accord? Si je prends maintenant la limite de Thomas Fermi, potentiel très gros, à ce moment-là, c'est l'énergie cinétique qui est négligeable, on la néglige, c'est comme ça qu'on élit le terme moins S bar 2 sur 2M laplacienne dans l'équation de Gauss-Kutaevsky, c'est-à-dire que je néglige ce terme-là, et à ce moment-là, je trouve 5 ici, 5 fois 4, 20, 20 alpha sur M2 est potentiel. Vous voyez, donc j'ai une formule qui me raccorde, cette formule-là, me raccorde les deux cas, interaction faible et interaction forte. Alors, je termine ce calcul par M-1. M-1 peut être calculé exactement, et là aussi il s'agit d'un calcul élégant, qui est dans l'article de Stringari, qui a été fait, je crois, par Jean Bailly, et je le refais parce que c'est un calcul que je trouve très très beau. Et qui est le suivant. Alors cela, on ne peut pas calculer éternellement les commutateurs. On va s'y prendre de manière différente. Alors, M-1, c'est moins H bar qui statique sur 2, que j'ai montré tout à l'heure, ou qui statique, c'est la réponse du système, la susceptibilité, lorsqu'on ajoute à la Hamiltonienne la perturbation epsilon R2. Et donc, delta F, c'est epsilon qui statique et c'est sigma i de 1n de delta de ri carré. Donc epsilon, c'est sigma i de delta i de ri carré divisé par qui statique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que epsilon? Epsilon, je vous ai montré tout à l'heure qu'ajouter epsilon r2 à l'interaction, ça revient à changer la fréquence propre de l'oscillateur de oméga 0 à oméga 0 plus delta oméga 0, où delta oméga est relié à epsilon par cette formule. Donc, si je remplace epsilon dans cette expression par m oméga 0 delta oméga, je vois que m-1, ce qui est moins h bar sur 2, qui statique, c'est sigma i de 1n de delta ri carré, divisé par le coefficient epsilon, qui est m oméga 0 delta oméga 0. Donc, je trouve que m-1, c'est moins h bar sur 2m oméga 0, la somme sur i de 1n de delta de ri carré, le grossissement de chaque ri carré, divisé par delta oméga 0. Il y a n termes ici, qui sont tous les mêmes, et j'obtiens donc que m-1, c'est moins n fois h bar sur 2m oméga 0, la d sur d oméga 0 de r2. Autrement dit, j'ai un condensat qui a une fonction d'onde, qui a une valeur moyenne de r2, je change très légèrement oméga 0, r2 change, j'appelle dr2 sur d oméga 0 la variation de dr2 pour oméga 0, et m-1, c'est tout simplement moins n h bar sur 2m oméga 0, dr2 sur d oméga 0. Question, est-ce que je peux calculer dr2 sur d oméga 0? Est-ce que je peux calculer comment le condensat change de rayon au carré quand on change oméga 0 de dω 0. Alors pour cela, il est intéressant d'introduire des quantités sans dimension, de revenir à l'équation de Gorz-Pitalski, indépendant du temps, et de regarder de quoi elle dépend, quels sont les paramètres sans dimension, quels sont les paramètres réels qui apparaissent dans l'équation de Gorz-Pitalski. Et pour cela, il est intéressant de tout exprimer sous forme adimensionnée. Alors, je prends, au lieu de R, une variable de xi qui est R sur racine de H bar sur M oméga 0, c'est normal de prendre racine de H bar sur M oméga 0, puisque c'est le rayon de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Par suite, le gradient par rapport à xi, c'est le gradient par rapport à R que multiplie racine de H bar sur M oméga 0. Xi, qui est homogène à 1 sur L puissance 3,5, 1 sur une longueur en puissance 3,5, donc xi, on va remplacer par xi tilde de xi qui est H bar sur M oméga 0, racine carrée à la puissance 3, donc ça va me donner 3 quarts. Et puis, mu, je vais passer par mu sur f bar oméga 0. Et quand je fais tout cela, je m'aperçois que l'équation de Gorz-Pitalski devient 1 demi de moins laplacienne par rapport à psi plus psi de phi, plus lambda phi tilde carré phi tilde, égale mu phi tilde, où le seul paramètre qui apparaît maintenant dans le membre de gauche, il ne reste plus qu'un seul paramètre, qui est une combinaison de g de oméga 0, c'est de n, c'est g, n, oméga 0 puissance 1,5, n puissance 3,5, h bar puissance 0,5. Et bien sûr, à cause de ce changement de variable, r2 moyen est égal à psi de moyen, comme je dis, h bar sur m oméga 0. De sorte que d de r2 sur d oméga 0, c'est la dérivée de ça par rapport à oméga 0, c'est donc moins h bar sur m oméga 0 carré psi 2, plus h bar sur m oméga 0, d de psi 2 sur d oméga 0. Et en faisant réapparaître r2 ici, c'est moins r2 sur oméga 0, plus h bar sur m oméga 0, d psi 2 sur d oméga 0. Et maintenant, comme l'équation de Gorz-Pitalski ne dépend en fait que du paramètre lambda, au lieu de tout exprimer en fonction d'une dérivée par rapport à oméga 0, je peux exprimer en fonction d'une dérivée par rapport à lambda ou d'une dérivée par rapport à n. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser une dérivée par rapport à n, parce que je sais comment se comporte un condensat quand il y a peu de particules ou qu'il y en a beaucoup. Alors, effectivement, dxi2 sur d oméga 0, c'est dxi2 sur d lambda, qui multiplie d lambda sur d oméga 0, puisque la seule dépendance, c'est lambda. De même, dxi2 sur dn, c'est dxi2 sur d lambda, qui multiplie d lambda sur dn, puisque xi2 ne dépend que de lambda, et lambda est une fonction de oméga 0 et d'oméga n. Et par suite, dxi2 sur d'oméga 0, je peux l'exprimer en fonction de dxi2 sur dn, et obtenir donc dxi2 sur d'oméga 0 égale dxi2 sur dn, qui multiplie d lambda sur d'oméga 0 divisé par d lambda sur dn, et comme je connais l'expression de lambda en fonction de oméga 0, n, g et tout, je peux donc immédiatement calculer et trouver n sur d'oméga 0, dxi2 sur dn. De sorte que, si je reviens à l'expression tout à l'heure, que j'écris juste deux sens par avant, dr2 sur dωμ0, c'est moins r2 sur oméga 0 plus h bar n sur 2m oméga 0 de dxi2 sur dn, remplaçant ça par dr2 sur dn, qui est simplement un changement d'unité, j'obtiens cette formule importante que dr2 sur dωμ0 égale moins 1 sur oméga 0 r2 moins n sur 2 d sur dn de r2. Et j'obtiens cette formule, que je vais écrire au tableau, que m-1 égale n h bar sur 2m oméga 0 2 que multiplie r2 moins n sur 2 d de r2 sur dn. Donc j'ai exprimé m-1, c'est une quantité donc statique, en fonction simplement de la manière dont r2 varie avec n. Et ça c'est très intéressant parce que je connais les deux comportements limites. Si je suis un gaz parfait de boson, ils sont tous dans l'état fondamental, et l'état fondamental ne dépend pas de n, puisqu'il n'y a pas d'interaction. Donc dr2 sur dn est nul. Et j'obtiens donc m-1 égale nh bar sur 2m oméga 0 r2, et en multipliant haut et bas par 1,5 de m oméga 0 2, je fais apparaître h bar sur m2 oméga 0 4, l'énergie potentielle, moyenne. Si je prends maintenant la limite de Thomas Fermi, des interactions fortes, nous savons que R2 varie comme n à la puissance 2 cinquième. Donc donc DR2 sur DR2, c'est 2 cinquièmes de DN sur N. Et donc DR2 sur DN, c'est 2 cinquièmes de R2 sur N. Et si je reprends ça dedans, DR2, c'est donc 2 cinquièmes de R2 sur N, DN se simplifie, et j'obtiens que M-1, c'est NF bar sur 2M oméga 0,2, 4 cinquièmes de R2, et en multipliant encore au débat par 1 demi de M oméga 0,2, j'obtiens 4 cinquièmes de H bar sur M2 oméga 0,4 énergie potentielle. Et je vois ici un changement quand je passe de l'interaction faible à l'interaction forte. Donc, vous voyez sur cet exemple comment on peut, par des techniques relativement simples, obtenir des relations exactes sur les moments. Alors, tout ceci, bien sûr, c'est dans un but, hein, c'est de calculer les fréquences et de voir les fréquences des modes de vibration. Et je passe maintenant à la dernière partie du cours de cette séance, qui est application au calcul des fréquences. Alors, je reviens donc à la définition de M3, M1, et je vais appliquer ça, je vais m'intéresser au mode monopolaire le plus bas d'un condenseur sphérique. À ce moment-là, il faut que je prenne l'opérateur F égale sigma I de RI carré, il va exciter, cet opérateur va exciter les modes NR égale 1, 2, 3, 4, L égale 0, M égale 0, et j'appelle oméga 1, 0, oméga 2, 0, oméga 3, 0, les fréquences des transitions qui sont excitées par l'opérateur sigma i de RI carré, et qui partent du condenseur vers la première excité, deuxième excité, troisième excité. Et finalement, M3, ça va être oméga 1, 0 cube F1, 0 carré, plus oméga 2, 0 cube F2, 0 carré, plus oméga 3, 0 cube F3, 0 carré, plus etc. Et je divise ça par M1, qui est oméga 1, 0 F1, 0 carré, plus oméga 2, 0 F2, 0 carré, plus etc. Je mets en facteur oméga 1, 0 cube en haut, oméga 1 0 carré en bas, ça va me donner oméga 1 0 carré, et je vais donc avoir F1 0 carré plus oméga 2 0 sur oméga 1 0 cube F2 0 carré, plus etc. Et en bas, j'aurai F1 0 carré plus oméga 2 0 sur oméga 1 0 F2 0 carré, plus etc. Oméga 1 0, c'est oméga M, c'est la fréquence du mode monopolaire le plus bas susceptible d'être excité. D'autre part, il est clair que oméga 1 0 est plus grande que oméga 0 pour N égale 2, 3, par définition même, puisque j'ai pris oméga 1 0, la fréquence du mode monopolaire le plus bas. Alors, tous ces nombres-là sont plus grands que 1, et comme ils sont plus grands que 1, oméga 2 0 sur oméga 1 0 cube est plus grand que oméga 2 0 sur oméga 1 0 carré, donc toute cette partie-là est plus grande que toute cette partie-là, et le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, j'obtiens une bande supérieure. Je vois que M3 sur M1 va être plus grand que oméga 1 0 carré, c'est-à-dire oméga M carré. Donc, et de même, si je calculais M1 sur M-1, le même type de calcul me donnerait oméga 0 carré, quelque chose qui est plus grand qu'oméga 0 carré, c'est-à-dire oméga M carré. Autrement dit, j'arrive à l'idée que le rapport de deux moments différents de deux unités constitue une bande supérieure pour la fréquence au carré du mode le plus bas que ces opérateurs excitent. Et si je suis dans une situation où F1 0 carré est beaucoup beaucoup plus grand que Fn 0 carré, quel que soit n différent de 1, parce qu'on a tous les autres termes que je peux négliger, et j'aurai oméga M3 sur M1 égale oméga 1 0 carré. Alors quand la première transition, le carré d'élément de matrice de F est beaucoup plus grand que tous les autres, on dit que la première transition épuise la règle de somme. C'est ce qui se passe en physique atomique. En physique atomique, on parle d'état fondamental, pas dans le fausse sodium, on a une transition qui a une force d'oscillateur quasi égale à 1, et puis toutes les autres sont négligeables. Et pour les superfluides, c'est en général ce qui se passe. Nous allons le vérifier explicitement. À ce moment-là, c'est très agréable. Ça, c'est une approximation. Hein. Si la transition la plus basse épuise la règle de somme, à ce moment-là, le rapport de deux moments séparant de deux unités me donne directement le carré de la fréquence la plus basse. Alors, on va tester ça. Bon, supposons, essayons de voir si c'est vrai. Si c'était vrai, j'aurais donc M3 sur M1 égale M1 sur M-1 égale oméga M carré. Alors, d'abord, quelle est l'égalité M3 sur M1 égale oméga M carré? M3 sur M1, j'ai ici l'expression de M3, j'ai ici l'expression de M1, je divise l'une par l'autre, et j'obtiens M3 sur M1 égale oméga 0,2, 5 énergies potentielles moins énergie cinétique sur énergie potentielle. Alors, on va tout de suite tester dans l'état limite. ta limite gaz parfait est cinétique égale et potentielle, donc j'ai 4 ici, 4 énergie potentielle sur énergie potentielle, c'est 44, et donc 4 oméga 0,2, et ça c'est oméga m carré, donc oméga m égale 2 oméga 0, qui est le résultat classique. Le résultat classique est ici. Quand je prends nr égale 1, l égale 0, je mets 2 oméga 0. Ça marche. À la limite de Thomas Fermi, et cinétique est très petit devant les potentiels, donc ça, ça s'en va, donc on voit 5 les potentiels sur les potentiels, bon, 5 oméga 0 carré, donc m3 sur m1 égale 5 oméga 0 carré, oméga m carré, donc racine de 5 oméga 0, et ça marche, il est là. Donc je retrouve bien, en prenant m3 sur m1, le bon résultat pour les champs faibles, et pour les interactions faibles et pour les interactions fortes. Alors, continuons. Regardons si ça marche aussi pour m1 sur m-1. Eh bien, je reprends cette formule que j'avais donnée tout à l'heure. Le cas où ce terme est négligeable, gaz parfait, le cas où R2 varie comme 2 cinquièmes, et je trouve que dans les premiers cas, M1 sur M-1, c'est 4 oméga 0,2, c'est le bon résultat. Et M1 sur M-1, à la limite de Thomas Fermi, c'est 5 oméga 0,2, c'est le bon résultat. Donc également pour M1 sur M-1, ça marche. Donc le fait que M3 sur M1 est égal à M1 sur M-1 dans les deux cas limites, et que ces deux cas limites me redonnent la bonne valeur, me donne confiance dans le fait que la règle de somme est épuisée par la première transition. On peut encore aller plus loin, ça a été fait par l'équipe de Stringari, et c'est ce que je présente maintenant. L'équation qui donne M3 sur M1 est exacte, hein, puisque je n'ai fait aucune approximation sur M1. Et elle fait intervenir que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'un problème d'équilibre. Alors, ce qu'on peut faire, on peut résoudre numériquement l'équation de Gross-Pipelski indépendant du temps, pour toutes les valeurs du paramètre phi condensa égale nh sur sigma 0 qui décrit la force des interactions, et calculer pour chaque valeur de chi, c'est-à-dire pour chaque valeur des interactions, et cinétique moyen, et potentiel moyen, et calculer la fréquence donnée. D'accord? Ça, c'est un calcul relativement facile, parce que c'est un calcul statique. On calcule, on résout une équation, on trouve la fonction d'onde stationnaire, et on calcule l'énergie cinétique et l'énergie potentielle moyenne. On peut aussi, en linéarisant l'équation de Gross-Pitaevski par rapport à l'état d'équilibre, sans utiliser l'approximation de Thomas Fermi, utiliser les équations que j'ai appelées la semaine dernière, les équations de Bogoliubov-Degen. Ces équations linéaires pour les déviations par rapport à une utilisation d'équilibre. Ces équations de Bogoliubov-Degen, qui généralisent un condensat homogène, les équations de Bogoliubov pour un condensat homogène, ont été étudiées par de nombreux auteurs pour trouver justement les modes propres de vibration, quelle que soit la force de l'interaction. On peut le résoudre numériquement et calculer la fréquence du mode monopolaire, la fréquence du mode quadripolaire, quel que soit qui condensa. Ça a été fait. Et on peut comparer les deux. Et voilà le résultat. Extrait donc de cet article de revue de Dalfour-Bourgeon-Vinitsky-Stringari. Ici, la courbe en tréplein représente la valeur de oméga m calculée par la méthode des moments. Cette grandeur divisée par cette grandeur-là, à partir des énergies cinétiques et des énergies potentielles moyennes. Et les points, ici, décrivent les valeurs propres des équations de Bogoliubov-Degen. Également calculées numériquement, il y a un excellent accord, donc, non seulement pour les grandes interactions et pour les interactions faibles, et pour tous les points. Vous voyez, remarquez aussi qu'on peut calculer le régime A négatif, le régime où le condensat est attractif, et à ce moment-là, on voit que la fréquence du mode monopolaire où le dette plus grande que la fréquence des modes quadripolaires devient plus petite parce que le condensat a tendance à s'écraser, donc la compressibilité diminue de manière dramatique pour s'annuler complètement quand le condensat devient instable. Et l'autre courbe qui est ici, c'est tout simplement un autre mode de vibration, qui est le mode quadripolaire, où j'ai donné donc très rapidement dans les deux transparents suivants des formules. Alors là malheureusement, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quand j'ai recopié mes brouillons, je me suis trompé à plusieurs reprises. Donc, cette formule ici, c'est 8 h bar sur M2, et non pas 2 h bar 2 sur oméga perpendiculaire carré, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et l'expression suivante de oméga Q, ici, il n'y a pas de h bar. C'est corrigé, bien sûr. C'est corrigé. Il n'y a pas de hasard dans les notes. Donc, le même calcul que j'ai fait ici, je ne vais pas vous l'imposer, on peut le refaire pour le mode en x2 moins y2, et on peut aussi donc calculer, trouver des formules très sympathiques pour oméga q carré. Oméga q carré, c'est 2 oméga perpendiculaires carrés qui multiplient et cinétique plus et potentiel divisé par et potentiel. Donc, j'ai essayé de vous donner l'esprit de ces méthodes. Elles sont très utilisées maintenant couramment pour obtenir des relations exactes entre ces fréquences des modes, et les fréquences des modes sont très importantes pour comprendre la structure et la dynamique des condensats qu'on fait apparaître, par exemple, des tourbillons. Alors, je commencerai la semaine prochaine vraiment le problème des rotations, c'est-à-dire que je prendrai un condensat dans un piège qu'on tourne à la vitesse oméga, et j'essaierai de calculer la fonction d'onde qui décrit les atomes condensés dans le référentiel tournant, de calculer la structure spatiale, le champ de vitesse, et de montrer que les propriétés physiques d'un condensat tournant sont complètement différentes des propriétés physiques d'un objet rigide qui tourne. Tu as une question à poser ? Bon, c'est pour justifier. C'est pour justifier le fait que quand on a une perturbation sinusoïdale et qu'on veut calculer la probabilité de transition, on utilise un calcul de perturbation au second ordre, au premier ordre, pardon, à l'aide au carré. Alors, comme tu le sais bien, il y a des fonctions delta approchées au carré qu'on fait. Et le carré d'une fonction delta n'a pas de sens ici, une vraie fonction delta, mais ce n'est pas une vraie fonction delta, c'est une certaine largeur parce qu'on a le temps d'interaction infini, et on peut apparaître un t fois une fonction delta, et ça permet de définir une probabilité de transition par unité de temps. Et à ce moment-là, on a... Alors évidemment, je comprends ce qui te trouble, c'est que... Oui, non mais... C'est un calcul perturbatif, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le régime où on a une oscillation de Rabi. J'ai le début, si tu veux, c'est le début de la probabilité de transition. On peut toujours ensuite considérer qu'il y a un certain élargissement du système. Pas nécessairement. Je pense pas nécessairement. Parce qu'effectivement, il y a en principe, ces modes ne sont pas... Si on n'introduit pas les processus de dissipation, ils ne sont pas amortis. Mais évidemment, il y a toujours concrètement des... Exactement. Mais sauf si tu tenais sur l'un d'entre eux, s'il n'y avait absolument pas de dissipation, à ce moment-là, non, il y aurait une oscillation de Rabi. Ceci dit, j'ai toujours le droit de définir la densité spectrale comme une somme de fonctions delta que multiplie des éléments de massifs au carré. En quelle mesure cette densité spectrale est reliée à une quantité mesurable expérimentalement, ça c'est un autre problème. Mais dans tous les calculs que j'ai fait aujourd'hui, j'ai défini cette densité spectrale, les moments de cette densité spectrale, et j'ai montré que le rapport de moments permettait d'avoir accès aux fréquences des modes. C'est ça qui était mon problème. Oui. Oui, c'est le temps d'interaction, bien sûr, bien sûr. Oui, Monique. Monique, ce que tu dis n'est pas exact. C'est vrai dans le condensat homogène, parce que tu détends le L vers l'infini, mais dans le cas d'un condensat homogène, les premiers modes sont bien isolés. Hein. Les premiers modes sont bien isolés. Et à ce moment-là, elle a raison. Quand tu appliques une... Et à ce moment-là, mais tu es d'accord, à ce moment-là, c'est une précision de Rabbi. C'est une précision de Rabbi. Ceci dit, d'ailleurs, en fait, il y a un exemple concret qu'on peut citer, c'est il y a eu beaucoup d'expériences pendant ça, où on utilise une diffraction de braque stimulée, absorption émission stimulée. Et là, les gens ont vu aussi la précision de Rabbi très très proprement. Hein. Mais ceci dit, ça c'est un problème, qu'est-ce qu'on observe? Mais le problème ici que vous avez, c'est le droit de définir cette quantité de densité spectrale, et de définir les moments, et ce qui est important, c'est que les moments de cette densité s'expriment simplement en fonction de commutateur, peuvent être calculés. Le problème de relier ces moments à une quantité observée de chaleur, ça c'est un autre problème. D'autres questions? Je suis heureux que des questions arrivent pendant le cours, même pendant le cours, n'hésitez pas à m'interrompre. Et je répète aussi ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je fais beaucoup d'erreurs quand je tape mes transparents, parce que j'ai 40 transparents par semaine, j'avais beaucoup de travail. Donc si, je vous serai très reconnaissant de me signaler toutes les erreurs que vous trouvez, pour que je les corrige avant de les mettre sur le web.